De Souvenir FM. Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Souvenir FM, votre radio locale du Grand Axe, à retrouver sur le 88.6 et 97 FM. Il est bien midi pile, l'heure de notre rendez-vous quotidien avec l'invité du 12-13, l'émission où l'on met à l'honneur celles et ceux qui font vivre notre territoire. Aujourd'hui, on lève les yeux vers les étoiles pour découvrir un lieu passionnant et méconnu, l'Observatoire de Dax. À l'occasion de son 45e anniversaire, on propose un voyage céleste à travers son histoire, ses activités scientifiques et les nombreuses animations proposées au public. Et pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Luger, chargé d'animation à l'Observatoire, et Jean-Jacques Taratz, membre de l'Observatoire. Messieurs, comment vous allez ?
Écoutez, on est heureux d'être ici.
Bah, c'est parfait.
Oui. Merci de nous avoir invités.
Jean-Jacques, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes un véritable passionné.
Ça, depuis l'âge de 6 ans.
Bon, bah, vous allez pouvoir nous transmettre votre passion. Pierre, ça va bien ?
Ah, très bien.
C'est parfait. Merci. Alors, messieurs, avant de découvrir un petit peu les mystères de l'univers et de cet observatoire implanté au cœur de notre territoire, voici votre flash info national et international. Restez bien à l'écoute. On revient juste après.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
L'essentiel de l'info, c'est maintenant.
Bonjour à tous. François Bayrou a inauguré le salon du Bourget ce matin, le plus grand rendez-vous aérospatial du monde. L'événement est marqué cette année par les guerres militaires et commerciales et l'innovation. Et justement, dans le contexte d'affrontement entre l'Iran et Israël, plusieurs stands d'armement israéliens ont été interdits. Un homme menaçant et en possession de plusieurs armes à feu a été grièvement blessé cette nuit à Metz lors d'un échange de coups de feu avec la police. Un policier a également été blessé à la main. Un homme a par ailleurs été tué par balle dans un camp de migrants de Dunkerque cette nuit au lendemain d'une fusillade mortelle. Une personne avait été tuée par balle et 5 autres blessés, dont une grièvement. Plusieurs centaines de foyers sont privés d'eau potable depuis dimanche dans certains quartiers de Perpignan, alors que des températures particulièrement élevées sont attendues dans les prochains jours. L'origine de cette coupure demeure inconnue pour le moment. Cette fois, c'est parti. Les épreuves du baccalauréat édition 2025 ont débuté ce matin par la fameuse épreuve de philosophie. Place désormais aux épreuves de spécialité. Il y a de moins en moins de distributeurs automatiques de billets en France, mais on peut désormais trouver du liquide ailleurs. Plus de 27 000 commerçants proposent des retraits d'argent pour les clients qui ont la même banque. Progressivement, ce dispositif sera étendu à tous les détenteurs de cartes bleues sans frais. Donald Trump a ordonné de nouvelles opérations anti-migrants à Los Angeles, à Chicago et à New York. Le président américain souhaite le plus grand programme d'expulsion massive de l'histoire, visant ces villes dirigées selon lui par des démocrates d'extrême gauche à l'esprit malade. Sport et football, le PSG a traîné avec sérieux son nouveau statut de champion d'Europe. Le club de football parisien a dominé 4-0 l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann pour son entrée en lice dans le mondial des clubs en Californie. Et puis côté judo, Johan Benjamin Gaba est sur le toit du monde. Le judoka français est devenu hier champion du monde dans sa catégorie des moins de 73 kilos. Une première pour un français dans cette catégorie de poids. Ce titre est aussi la 3e médaille française de ces mondiaux de judo.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous sommes de retour sur Souvenir FM, toujours en compagnie de Pierre et de Jean-Jacques de l'Observatoire de Dax. Alors messieurs, dans cette première partie, on va un petit peu s'intéresser à votre histoire, une histoire forte de plus de 45 ans d'histoire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de la création de cet observatoire en 1979, messieurs ? Alors Pierre, peut-être.
Alors le 79, oui, effectivement, c'est une date charnière, mais disons, il y a eu des prémices en 1975,
hein,
Philippe Dupouy a adhéré à l'Association culturelle de Dax avec l'idée de créer un observatoire sur place, bien sûr. Ça s'est progressivement fait, et notamment, ça s'est déterminé en 1980 par la construction d'une tour. Grâce à la municipalité de l'époque, qui était, dont le maire était M. Gousbert Dupin, qui était un peu un visionnaire d'ailleurs, et qui a permis l'érection de cette tour et qui avait pour but de mettre un télescope hors de la portée de la rosée, notamment en se relevant de 3 mètres. Et ça suffit pour éviter l'embuage des miroirs, notamment. Bon, cette tour a été construite. A été recouverte par une coupole en polyester qui a été fabriquée quelques années avant dans la chapelle Sévigné,
très bien.
Qui appartenait à l'époque à l'association. Et cette coupole a été transformée, transférée là, et installée sur la tour. C'est une coupole qui est rotative, c'est-à-dire qui permet de s'orienter dans les 360 degrés.
Très bien.
Et aussi avec une partie ouvrante, de façon comme on a, une partie qui va s'ouvrir pour permettre la lumière de rentrer.
Très bien.
Voilà, ça c'est le gros morceau, le gros chantier. Donc la date officielle c'est 1980 pour nous.
Donc 79-80, on n'était pas loin.
Ouais, on était pas
très bien.
Loin.
Comment évolue un petit peu cet observatoire de Dax au fur et à mesure des années, peut-être, Jean-Jacques?
Bon, principalement c'est tous les vendredis où on ouvre nos portes dans tout ça.
Très bien.
Et bien sûr, ça on accueille beaucoup de public. Bon, sauf par mauvais temps, mais ça, il y en a certains qui viennent, mais on compense leur venue. Et donc, bien sûr, on leur offre différentes activités, donc l'observation du ciel, mais au tout début, visite des instruments.
Très bien.
Un petit brin sur la météo. Aussi, on a notre propre météo.
Très bien.
Et puis, bon, bien sûr, on essaye quand même de meubler lentement. Bon, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a aussi la galerie Géospace.
Oui.
Voilà, Géospace. c'est des fois... Et donc, Géospace nous permet donc de voir la Terre qui s'observe elle-même. Parce qu'on observe aussi l'intérieur, le sous-sol aquitain.
D'accord.
Il y a plein de choses qui sont quand même très intéressantes. Et après, en second lieu, bien sûr, quand la nuit tombe, on observe après le ciel. Il y a bien sûr le planétarium que j'anime en particulier. Pierre aussi, si des fois je suis absent, peut faire aussi la même branche. Et donc, on se complète. Et chaque membre quand même a sa spécialité.
Très bien.
Qui, au fur et à mesure, se développe au fil des ans. Quoi.
Donc vous êtes finalement complémentaires?
Voilà, on est tous complémentaires.
Très bien. Alors on parle un petit peu de vous, Jean-Jacques et Pierre. Quels sont vos rôles, vous, attitrés? Alors Pierre, vous êtes plutôt chargé d'animation au sein de cet observatoire.
D'ailleurs, il fallait organiser un petit peu la venue des personnes et en particulier les animations qui sont destinées à l'extérieur.
Très bien.
Alors, comme on disait, Jean-Jacques disait qu'on recevait du public l'après-midi, le vendredi soir. Ça, c'est ouvert à tout. On est là sur place pour recevoir les gens.
Très bien.
Par contre, on a des contacts avec des organismes différents, tels que des associations, des écoles, des lycées, des collèges, des différents organismes qui nous sollicitent. Une fois, un camping aussi qui nous a sollicité pour faire des animations astronomie. Et il faut organiser ça en lien avec le secrétariat de la CD, l'association culturelle, parce que là, on demande, un soutien financier.
Évidemment.
Parce qu'on se déplace avec du matériel, il faut louer des véhicules.
Évidemment.
Éponger un petit peu les frais de déplacement de nos animateurs. Donc, on fait un devis qu'on envoie aux personnes et on se met d'accord sur une somme et on fait notre prestation, si on peut dire, en fonction des demandes, bien sûr. Et après, il y a une facturation. Donc, la CD nous aide surtout pour la partie administrative. Et donc, moi, je tiens le planning des animations de façon à pouvoir faire le lien entre
Évidemment.
Toutes les personnes qui sont concernées par à la fois les animateurs, le secrétariat et les demandeurs.
Évidemment. L'association culturelle de Dax, que nous avons reçue la semaine dernière, d'ailleurs, qui nous a longuement un petit peu parlé de vous, de cette collaboration que vous avez instaurée. Depuis combien de temps? Alors, comment ça se passe? C'est une collaboration pour des cours? C'est des personnes qui souhaitent en apprendre un peu plus sur l'astronomie, etc. Comment ça se passe un petit peu, Pierre, cette collaboration?
La collaboration avec la CD, c'est sur le plan administratif que ça se fait. Il y a deux personnes de la CD qui sont aussi membres de d'autres ateliers, comme la sophrologie, les cours de langue, des choses comme ça. Et il y en a qui, il y a des personnes qui sont indépendantes, qui sont uniquement à l'observatoire.
Très bien.
Aujourd'hui, on compte 27 membres répertoriés à jour de leur cotisation.
Très bien.
Bon, ce qui n'empêche pas qu'il y a des personnes qui gravitent un peu autour et qui viennent nous voir occasionnellement parce qu'elles sont intéressées pour tel et tel problème.
C'est des personnes qui sont de différents âges. Comment ça se passe, la répartition? On parlait notamment d'un tiers de vos membres qui étaient plutôt jeunes. Comment ça se passe?
Oui, il y a un peu de tout. C'est comme Tintin, j'allais dire. Je ne vais pas parodier. C'est Tintin 77 ans, voire plus. Mais disons un tiers de jeunes qui sont des lycéens ou des collégiens. Entre 11 et 18 ans. Alors après 18 ans, après le bac, on les perd. C'est un petit peu le problème. Disons qu'il y a une dizaine d'années où ils peuvent faire quelque chose d'intéressant, se former à l'observatoire. Et ça, c'est depuis... On est à la cinquième génération, hein, depuis 1980, de formation de jeunes, mais qui sont un peu des touche-à-tout. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à l'astronomie, d'accord. Bon, les constellations, les planètes, les positions, mais aussi...
L'aspect technique, vous me parliez
notamment. Oui, c'est technique, dans le sens qu'il faut qu'ils connaissent au moins des rudiments d'optique pour régler les appareils. On fait un petit peu de physique, on fait de la mécanique, on fait des mathématiques aussi, parce que le positionnement des étoiles, ça se compte en position angulaire. Donc on prend les degrés, les minutes d'arc, les secondes d'arc et des choses comme ça. Il faut analyser tout ça pour savoir la trigonométrie, bien sûr. Donc on a été par un prof de maths qui s'appelle
Hubert Rinaldi,
qui est de TOS d'ailleurs. Donc il se déplace spécialement pour nous. On peut le remercier d'ailleurs parce que c'est une aide importante.
Très bien. Vous me parliez notamment, Jean-Jacques, alors vous sentez quand même une jeune génération plutôt intéressée, qui porte de l'intérêt à l'astronomie. Vous les sentez impliqués, vous les sentez, est-ce qu'ils vous posent des questions, est-ce que vous les sentez soucieux de s'intéresser?
C'est là qu'on rentre quand même pour notre rôle à être fin psychologue, parce que c'est sûr qu'il y a les motivés, puis ceux qui sont en pleine découverte, et puis progressivement, on voit s'ils accrochent ou s'ils n'accrochent pas. Soit bien sûr, ceux qui n'accrochent pas, obligatoirement, on dirait même c'est un automatisme, ils ne reviennent pas.
Oui.
Et d'autres, par contre, ça démarre assez bien, c'est assez bien, et ils finissent par trouver leur vocation au sein de l'observatoire, leur spécialité, comme on pourrait dire. Oui. Il y en a certains, c'est l'analyse du soleil, le traitement des images recueillies par les télescopes. Et donc là, bien sûr, c'est là que ça rend bien service à l'observatoire, et puis on fait découvrir ça au tout public.
Évidemment, c'est toujours la passion qui parle. Est-ce que vous avez déjà peut-être des témoignages, peut-être des exemples de personnes qui ont un petit peu créé un petit peu leur vocation via cet observatoire de Dax, qu'ont su évidemment peut-être faire ça de leur vie, un petit peu de s'intéresser à l'astronomie, ou c'est peut-être resté une passion? Est-ce que vous avez des exemples un petit peu concrets, Pierre, peut-être?
On a plusieurs exemples. Hein. En particulier, il y a Maëlys qui revient cet été nous faire une conférence sur le JESS Webb, le télescope spatial JESS Webb, qui est une ancienne de l'observatoire qui s'est formée il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un des cas de figure. Après, on a aussi
Je pourrais dire, il y a Frédéric Soulu aussi, qui est un conservateur au château d'Abadia, un ancien de l'astronomie, de l'observatoire, qui, bien sûr, le château d'Abadia comporte aussi son propre observatoire, mais qui est beaucoup plus en état de musée que le tout public, enfin, comme nous le faisons. Quoi. Et donc là, Frédéric Soulu vient de temps en temps nous voir, mais en même temps, donc... fait contribuer à sa passion aussi. Évidemment. Également.
On parlait de la passion qui parle.
C'est toujours la passion.
C'est toujours le cas. Messieurs, on va marquer une première pause musicale, Pierre, Jean-Jacques, et on se retrouve juste après. On continue à parler un petit peu de cet observatoire de Dax. Ça vous va, on fait comme ça?
Bien sûr.
Allez, tout de suite sur Souvenir FM.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité
dans le 12-13.
C'était I Feel It Coming de The Weeknd sur un instant sur Souvenir FM. Alors, je suis accompagné de l'observatoire de Dax, Jean-Jacques et Pierre. Vous allez toujours bien, Jean-Jacques, Pierre?
Oui.
Alors, Jean-Jacques, vous avez un petit peu bougé la tête. Vous avez apprécié ce titre de The Weeknd. Mais on revient un petit peu dans le vif du sujet. On parle un petit peu de l'histoire. Vous vouliez notamment revenir sur quelques petits points dont on avait oublié d'évoquer en début d'émission, Pierre.
Oui, effectivement, il y a quand même plusieurs points majeurs dans l'histoire de l'observatoire. En particulier la réalisation du premier planétarium amateur de France dans les années 80, au début des années 80, 82. Ce qui a valu à l'époque de passer à la télévision française sur les grandes antennes, dans l'émission de Jacques Martin. Mais alors ça ne parle pas à
une jeune
génération.
Pour certains,
si, quand même, moi ça me parle, mais peut-être pas forcément tout le monde, évidemment.
Non, mais c'était un bon moment. Ensuite, il y a eu quand même d'autres réalisations, hein, en particulier... On peut citer la découverte d'une comète. Alors, plutôt Jean-Jacques en parler.
Oui, alors Jean-Jacques.
Ah ben c'est sûr que là, c'était un événement, c'était une aventure, comme on pourrait dire. Parce que, il y avait déjà, c'était au printemps de le 7 mai 1997. Je vais essayer de faire ça à la Pierre Bellemare, mais c'est en trop saccadé. Et c'est vrai que là, bon, mais il y a eu une Américaine du Mont Palomar qui avait trouvé donc une comète. Et cette comète s'appelait donc repérée. Elle, d'ailleurs, bon, cette Américaine s'appelle Jane Mueller. Elle était repérée donc par C1997J1. Bon, c'est vrai que c'est des noms barbares,
oui, un peu codifiés.
Mais ça, c'est l'astronomie qui détermine ça. Et donc, par curiosité, on avait décidé à notre tour de voir cette fameuse comète, très d'après bien. Les coordonnées qui nous ont été transmises, et nécessaires pour la repérer facilement. Bon, j'épargne les détails techniques, qu'on utilisait des caméras type Odin, auxquelles là, vraiment, je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Et donc, en allant très vite, elle se présentait sous l'apparence d'une tache floue au télescope. Et donc, un peu plus sous la forme d'un amas globulaire, ce qui est comme un flocon d'étoiles. Mais là, ce n'était pas un flocon d'étoiles. Et donc, c'était très ténu. À ce stade, la queue de la comète était à peine visible, vu l'approche par rapport à l'approche du Soleil. Et à préciser que c'est lui qui fabrique la queue de la comète au moment où elle fond. Donc, c'est une double queue. Que de plasma et que de poussière. Les queues de poussière, c'est ce qui est très intéressant pour l'année des étoiles filantes. Parce que c'est ces poussières-là, quand elles rentrent dans l'atmosphère, donc ça fait toute une multitude. Et ça forme donc un tore. La comète forme un tore. Et quand la Terre traverse ce tore, il y a donc une multitude d'étoiles filantes parmi les quelques constellations. Donc il y a les Géminides, les Orionides, mais les plus intéressantes sont les Perséides. Et ça, c'est l'été, vu par le tout public. Alors, si je reviens un peu à cette comète, bon, ben, il y a, suite à cela, donc, Jean-François Laït, un ancien membre de l'Observatoire, était préposé pour le traitement des images. Il avait remarqué donc cette tache floue, non loin donc de la comète J1, qui n'existait pas encore au moment de la découverte, donc le 5 mai, et donc elle n'était pas dans le champ de vision. Donc, ayant participé, on a voulu voir à notre tour cette comète accompagnée de cette curieuse tache. Pour moi, j'en avais déduit, c'était une faible nébulosité donc, dans le ciel, et que c'était peut-être une impureté ou un amas globulaire encore. Bon, c'était sans importance, on ne s'était même pas donné la peine d'en repérer les coordonnées. Alors, pour éviter toute manipulation et toute erreur, on a recommencé l'application.
Très bien.
Et c'est drôle parce que, quand c'est écrit, le destin nous réservait déjà une surprise. Et on ne le savait pas. Donc, on a amorcé la manipulation et on a redécouvert le duo qui se trouvait dans le ciel. Alors déjà la comète J1, et c'est là que Philippe dit « Non, mais c'est pas possible. C'est pas ce que je pense. »
Et au final, si.
C'est pas ce que je pense. Donc, et là, on a refait encore les calculs. La comète s'était déplacée.
Très bien.
J2, qui allait devenir notre découverte. Mais il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Là. Bon, mais on a pris le risque en prenant le plus précisément possible les coordonnées de cet astre trouvé pour l'envoyer au Minute Planet Center aux États-Unis. Et donc là, bon, bien sûr, eux, ce que je pourrais dire, c'est que on ignorait, une fois que l'information était envoyée, on ignorait que ce qui allait se tramer, on peut dire en dessous de nos pieds, quoi. Une discussion entre les États-Unis et Paris.
Oui.
Et au bout d'un moment, quelques heures après, très tard, parce qu'on était très jeunes, alors je le tiens, vers les 3h, 4h du matin, on a eu donc les félicitations. Donc je vais quand même épargner l'anglais.
Oui.
Mais par contre, en version française, c'est « Félicitations, après vérification de vos coordonnées que vous nous avez communiquées, vous avez trouvé une nouvelle comète ».
Ah oui.
Là, quand j'en parle, j'en ai lui-même le frisson.
Le frisson,
Donc, vous avez trouvé une nouvelle comète que nous avons baptisée, c'est 1997 J2. Il y avait J1 et J2. J'ai tout de suite pensé à cette Américaine qui, en apprenant la nouvelle le moment venu, Je pense qu'elle devait être verte de rage, oui, parce qu'elle aurait pu trouver deux comètes au lieu d'une.
Oh oui.
À chacun sa part.
Oui, à chacun sa part, finalement. Et c'est là que Dax a été un peu sur
devant la lumière. Et c'est cette comète qui nous a rendu célèbre, qui a rendu l'observatoire célèbre dans tout ça. Donc, Philippe Dupuy donc, en a été très heureux. Bon, bien sûr, qui a trouvé la comète? On pourrait dire que c'est Jean-François Laïte, mais Jean-François Laïte, étudiant, pour les études et tout ça, endosser la lourde charge de découvreur de comètes, et il a préféré déléguer ça à Philippe Dupuy.
Très bien. Ah oui, donc c'est une vraie, véritable charge, hein, un véritable
palmarès. Voilà, donc
palmarès.
On peut dire officiellement, je précise, c'est Philippe Dupuy qui a trouvé la comète. Parce que Jean-François, ouf.
Loin de lui tout ça.
Oui, loin de lui tout ça. Mais par contre, tout en restant passionné. Maintenant, il doit être père de famille, là, depuis. Oui.
Donc, il a finalement peut-être oublié cet épisode.
Voilà. Mais c'était quand même cet événement.
Ça marque une vie pour vous, ce genre d'événement?
Ah, ben ça a été quand même.
Pour un véritable passionné, bien sûr que ça marque. Très bien. Messieurs, on va marquer une seconde pause musicale. On va continuer à parler un petit peu de vos activités scientifiques. Alors, vous êtes notamment énormément sollicité par les établissements. Bref, on aura l'occasion de l'aborder durant la suite de cette émission. Moi, je vous laisse avec la rédaction pour le Flash Info Local. Et on se retrouve juste après. Vous voyez, ça passe très, très vite. Il est déjà 12h30. J'ai l'impression de ne même pas avoir abordé un dixième de ce qu'on voulait aborder. Voilà, bref, c'est
et
toujours comme ça.
Et pourtant, on en dit des choses.
Messieurs, on se retrouve juste après. Ça vous va? On fait comme ça?
Très bien.
Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Économie, sport, environnement. Politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
C'était Lady Gaga et Bruno Mars pour le titre Die With A Smile. Nous sommes de retour dans votre émission L'Invité du 12-13 en compagnie de l'Observatoire de Dax et Jean-Jacques et Pierre qui m'accompagnent depuis ce début d'heure. Il est déjà 12h40, c'est passé à une vitesse folle. Je n'ai pas vu le temps passer. Évidemment, quand on parle avec des passionnés, forcément, on ne voit pas le temps passer. C'est un peu ce qui se passe à l'Observatoire lorsque vous rencontrez des jeunes qui sont passionnés. Comment ça se passe un petit peu? Alors, je sais que vous êtes notamment beaucoup sollicité par les établissements scolaires quand vous recevez des groupes de jeunes. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à structurer un petit peu, à rendre intéressant un petit peu l'astronomie, Pierre, peut-être?
Ah ben là, c'est pas... Oui, enfin, il faut sentir un petit peu les choses. Ça dépend du public, bien sûr. On va commencer par leur poser des questions. Et puis, ah bon, d'accord. Donc, suivant les réponses, on va amener une correction.
Très bien.
Ça, c'est le B.A.B.A., quoi. Et ensuite, on va tirer le fil et on va essayer d'intéresser en se projetant sur leur désir, en les suivant, en les motivant. Et puis, bon, on a des moyens techniques pour ça. Hein. On a des vidéoprojecteurs, on fait des PowerPoints, par exemple, hein, pour présenter les choses. On a des petits films, on a des exemples, on a des livres, des revues. Enfin, on a une bibliothèque qui est assez
chargée.
Oui,
très
oui,
bien.
Bien sûr. Il faut s'adapter au public. C'est la grande mode à chaque fois. Enfin, le grand critères à chaque fois. Bon, par exemple, si on intervient dans des lycées pour faire des notions de géométrie ou des notions d'astronomie, il ne faut pas être rébarbatif. Ce n'est pas un cours, c'est un échange.
Très bien.
On essaye de s'être sur ce registre-là.
Oui, on est là pour s'instruire aussi, hein, évidemment. Pour
S'instruire et en s'amusant.
Évidemment, c'est important. Vous parlez notamment du suivi d'astéroïdes. Alors, en quoi cela consiste-t-il, Jean-Jacques, peut-être?
Alors avant quand même de répondre à l'astéroïde, parce que bon, c'est vrai que l'astéroïde, ce ne serait qu'un aperçu, Philippe saurait mieux le dire que moi, j'ai quand même oublié un détail important. La comète J2, celle que nous avons découverte,
très bien,
partage deux noms.
Très bien.
Et ça, si je ne le disais pas, je crois que je m'en prendrais plein la tête. Ça, bonjour l'ambiance. Et donc, effectivement, elle comporte deux noms. Elle comporte Meunier, qui était un pilote de ligne, qui était de repos ce soir-là. Et puis après, donc Philippe Dupuy, alias donc Laïte, et officiellement Dupuy. Et donc là, bon, bien, cette comète donc, porte donc deux noms. Et en tant qu'étudiant, donc... Philippe, donc... Jean-François a pris donc... a proposé à Philippe Dupuy d'endosser cette lourde charge. Et c'est à partir de là que, tôt le matin, cet événement est devenu historique, car les félicitations pleuvaient des quatre coins de France. C'était quand même un instant très émouvant à voir, à vivre. Et puis, bon, bien sûr, y compris le monde entier.
Oui.
Parce qu'il y en avait quelques-uns qui connaissaient l'Observatoire vaguement. Mais par contre, apprenant la nouvelle, des Français qui couvrent...
Ils sont intéressés.
Et je dirais même plus, on fait partie des Dacquois qui ont découvert...
Ah, d'accord, très bien.
Et après, le Parisien... Meunier en tête. Alors ça s'est résumé à peu près à 4 heures de différence et on a préféré donc partager, collaborer, pour ainsi dire. On est vraiment devenu Philippe Dupuy et Meunier. Donc, sont devenus très grands amis au niveau de l'astronomie. Donc là, cette comète, grâce à une poignée de Dacquois, est devenue célèbre et l'observatoire venait d'entrer dans l'histoire.
Oui.
De plus, ça nous a impliqué à obtenir la référence UAI 958, qui est une référence mondiale parmi tant d'autres observatoires, Pic du Midi, de Bigorre.
Très bien. Donc toujours un petit peu cette codification, toujours un petit peu compliquée, qui fait des fois un petit peu peur.
Oui.
Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, alors effectivement, cette partie-là est importante. Alors, le suivi d'astéroïdes dont on vous parlait à l'heure, comment ça se fait ? Ça se fait en repérant toutes les nuits des choses qui bougent sur la voûte céleste. En particulier, alors, les astéroïdes, effectivement, ça peut se transformer en comètes quand c'est proche du Soleil, parce que la queue apparaît. Mais beaucoup d'astéroïdes tournent autour de nous, hein, autour du Soleil notamment, et peuvent croiser la Terre, l'orbite de la Terre. Et on fait ce qu'on appelle de la garde, c'est-à-dire qu'on va déterminer avec plusieurs observatoires dans le monde, la trajectoire de ces fameux astéroïdes. Alors, si c'est des astéroïdes qui font un mètre, c'est pas trop grave. Mais par contre, quand ils vont plusieurs centaines de mètres, on risque d'avoir des collisions très importantes et de connaître le sort des dinosaures. Ce qui n'est pas très agréable.
Oui, évidemment.
Donc, comment ça se fait ? On va suivre avec plusieurs observatoires, notamment l'observatoire de Dax, mais le relais va être pris la nuit par les Américains qui ont la nuit plus tard. Après, le relais va être pris par les Japonais, les Russes, et ainsi de suite. Et on va pouvoir observer ces astéroïdes 24 heures sur 24 pour déterminer leur trajectoire. Ça, c'est le premier point. Après, ces fameuses coordonnées, ces trajectoires sont calculées par le Minor Planet Center qui est à Harvard, aux USA, dans Massachusetts, qui, lui, est l'organisme officiel qui est chargé de faire ce suivi. Notamment par le délégué par l'Union internationale astronomique. Donc ça permet de déterminer cette trajectoire et éventuellement de dire est-ce qu'il y a un risque potentiel ou pas pour la Terre d'avoir
une
percussion. Donc on fait cette espèce de sauvegarde, sachant que maintenant on a fait des essais il y a deux à trois ans, notamment la mission...
DART, c'est ça ?
DART, exactement, vous avez raison, qui a permis de dévier un astéroïde, un petit astéroïde, de façon à pouvoir savoir quelle était l'efficacité de cette déviation.
Cette expérience, même.
C'est une expérience, voilà. Il faut savoir qu'il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour détecter un astéroïde et le dévier.
Oui.
Ce n'est pas le jour au lendemain,
Bien sûr.
C'est pas quelques jours avant, hein, c'est trop tard. Voilà ce que je pouvais dire.
Très bien. Et alors, quand on parle de trajectoire, je suppose qu'on doit être fort en mathématiques, hein, quand même, pour pouvoir calculer une trajectoire, même sur des mois à l'avance, etc. Comment ça se passe ? On prévoit toujours, on parlait de mois, c'est peut-être des années.
Alors,
est-ce qu'on peut la détecter même une année avant ?
Oui, y a plusieurs milliers d'astéroïdes qui sont référencés maintenant, dont on connaît exactement la trajectoire.
Très bien.
Sauf que dans le temps, la trajectoire dévie. C'est-à-dire qu'il y a l'influence des planètes qui peut se faire sortir, comme Mars ou Jupiter, notamment, et qui peut dévier un astéroïde et le rapprocher de la Terre. C'est pas stable, hein, les trajectoires d'astéroïdes.
Des fois, ils peuvent s'entrechoquer et changer de direction.
Oui, évidemment.
Voilà, ça force tout.
Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Alors, on parle un petit peu de l'Observatoire de Dax, un petit peu de votre actualité. Il me semble que début août, vous participez à la Nuit des Étoiles, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Qu'est-ce qui va s'y passer durant cette Nuit des Étoiles ?
Alors, cette année, on aura une conférence par Maëlys Lavassière.
Oui, je crois que ça s'en va. Il y a tellement de noms.
Et sur le thème du télescope spatial James Webb, qui nous a permis, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir de nouvelles avancées au point de vue astronomique. Il y a aussi l'animation qui se fera derrière, c'est-à-dire l'observation du ciel, si c'est permis. Et on a aussi toutes nos animations locales, c'est-à-dire le planétarium qui est maintenant un planétarium électronique, hein, c'est-à-dire avec projection vidéo sur une voûte hémisphérique, qui a été installé en 2018. Donc, est un franc succès, mais par contre, il manque de place parce qu'on n'a que 14 places assises et c'est un peu juste. Hein. Il est installé dans une coupole qu'on a récupérée au centre des CD Landes.
Très bien.
Qu'on a été chercher et remonter sur place. On a le petit planétarium de Tab Bader qui a été subventionné par les clubs services de Dax. Hein. Ils nous ont aidés à ce niveau-là. Il faut savoir que l'observatoire est maintenant connu du monde, enfin du monde, de toutes les personnes qui passent sur le contournement sud de Dax, parce qu'en avant on était côté coincé entre l'abattoir et la déchetterie, donc c'était pas un coin où les gens venaient facilement. Maintenant il y a 9000 véhicules qui passent par jour devant l'observatoire et un grand panneau qui indique carrément l'observatoire, donc on sait, les gens connaissent,
oui.
Et ça nous aide beaucoup à recevoir du public.
Oui. Et finalement,
la municipalité a fait des gros efforts de ce côté-là pour nous signaler.
Heureusement que le flux de la circulation baisse pendant la nuit,
oui.
Ce qui nous permet quand même d'avoir les instruments qui tremblent beaucoup moins.
Ah oui, donc c'est une véritable influence.
Mais quand nos télescopes et éventuellement lunettes, mais c'est surtout les télescopes, sont quand même d'une très grande sensibilité. Les moindres vibrations, un poids lourd, même à 100 ou 200 ou 300 mètres, le bruit est encore amplifié.
D'accord, très bien.
Cela prouve la précision de nos instruments.
Oui, évidemment. Messieurs, on va marquer une dernière pause musicale. C'est passé, voilà, comme je le dis, je réitère mes propos, c'est passé à une vitesse folle. Il est déjà 12h47, on écoute un dernier titre, un titre de Kenji Girac, que notre jeune stagiaire, Pierre, nous a suggéré d'écouter. On va l'écouter maintenant et on se retrouve juste après, on conclut cette émission ensemble, ça vous va ?
Oui.
Allez, on fait comme ça. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Que Dieu me pardonne de Claudio Capeo et de Kenji Girac à l'instant sur Souvenir FM. Et nous sommes de retour malheureusement, on va dire ça comme ça, pour conclure cette émission avec l'Observatoire de Dax et Pierre et Jean-Jacques qui m'accompagnent. Jean-Jacques, ne pleurez pas, malheureusement.
Oui.
On doit conclure cette émission au bout d'un moment. Merci beaucoup, messieurs, de votre venue. Merci beaucoup pour cet échange. On rappelle évidemment où se situe l'Observatoire de Dax. C'est important de le souligner. Peut-être, Pierre, est-ce que vous pouvez nous rappeler ?
Alors, l'adresse physique, c'est rue Pascal Lafitte. Mais alors aujourd'hui, je crois qu'il est plus facile de repérer l'observatoire parce qu'il est à côté du village Henri Emmanueli,
très bien.
Hein, consacré à la maladie d'Alzheimer.
Très bien.
On est à 100 mètres. D'ailleurs, on participe à des animations dans le village. On fait venir des villageois, à l'observatoire pour qu'ils puissent en profiter aussi.
Évidemment.
Il y a un échange.
Évidemment. On vous retrouve à partir du vendredi soir, c'est ça, Jean-Jacques ? Est-ce qu'on peut se déplacer à l'observatoire, venir vous voir
Librement, bien sûr.
Très bien.
Bon, bien sûr, là, c'est l'entrée est payante, ça, comme tous les sites. Bon, ça se résume à 6 euros pour l'entrée pour adultes, et puis 3 euros, si je me trompe. Ou 4 pour les... Pour les jeunes, quoi. Ça.
Très bien.
Après, un certain âge inférieur, c'est totalement gratuit. Mais bon, ça, c'est des détails que l'on voit sur place, quoi.
Très bien.
Et paiement par carte, bien sûr. Ça a son importance parce que c'est vrai qu'au début, on avait vraiment ce problème. C'est que soit c'était par chèque ou... Mais je ne vais pas m'étaler sur les finances. Il y a les dames qui s'occupent de ça.
Très bien. Alors, vous nous conseillez plutôt de venir l'hiver. Vous m'en parliez. C'était mieux pour pouvoir profiter de l'observatoire parce que la nuit tombe plus tôt, évidemment.
L'hiver...
L'été, c'est un peu plus compliqué. Il faudra attendre un petit peu plus tard.
L'hiver, c'est le ciel profond, l'atmosphère qui est refroidie dans tout ça. Et ça nous offre donc des images... beaucoup plus dans la profondeur du ciel. On peut voir des galaxies, des nébuleuses.
Oui.
C'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Très bien.
Et par contre, l'été, l'atmosphère est un petit peu excitée par la chaleur,
évidemment.
Tout ça. Et donc, ça...
Un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Et aussi, le soleil se couche beaucoup plus tard.
Oui, compliqué. Messieurs, il va être temps pour moi de clôturer cette émission. Un grand merci à vous, Pierre et Jean-Jacques, pour votre présence, pour vos précisions. C'était un plaisir. Évidemment, vous nous rappelez que l'astronomie, c'est aussi une aventure locale, humaine et accessible à tous avec ce site de l'Observatoire de Dax. Merci beaucoup, messieurs, de votre visite.
C'est nous qui vous remercions pour nous ouvrir l'antenne.
C'est un
plaisir. Par la même occasion, si tout ce que nous avons dit au micro, espérant qu'on va donner l'envie de venir à l'Observatoire.
Bien sûr.
Pour venir nous visiter.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.
Aussi, au revoir.
Notre émission touche désormais à sa fin, mais on se retrouve dès mercredi avec un nouvel invité, cette fois-ci avec l'écomusée de Marquèze. Dans quelques minutes, place à votre flash info nationale et internationale, puis à votre session musicale de l'après-midi avec Christophe jusqu'à 16h. Et bien sûr, on se retrouve à 18h30 pour votre flash info locale. Une très bonne après-midi à toutes et à tous, et comme on dit chez nous, à 10 chats.